France Inter.
Je parle beaucoup de la Palestine à tout le monde. Cela fait partie du choix que j'ai fait dans ma vie. Notre invité ce soir, à l'occasion de la 14e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient dont elle est la marraine, occasion pour nous de revenir sur son parcours et ses engagements. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique, ce sera Férouz pour sa chanson sur Jérusalem.
لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس، يا الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة،
pouvez-vous nous traduire, Leila Chahid, les paroles de cette chanson merveilleuse?
Oui, Fayrouz chante pour la ville de la prière et elle dit « Je fais une prière pour toi. Toi, Jérusalem, la ville de la prière, nos yeux se tournent vers toi. Toi, la ville qui a vu naître le petit enfant Jésus de sa mère Mariam. Et elle rappelle combien Jérusalem est la ville de la paix. » Alors, je trouve que c'est particulièrement émouvant aujourd'hui que Jérusalem vit probablement sa période la plus tragique dans son histoire, puisqu'elle a été déclarée de manière unilatérale et totalement illégale et illégitime comme uniquement capitale d'un État. Elle devrait être la capitale du monde entier. Elle devrait être une ville universelle, une ville internationale. Même pas la capitale de deux États. La ville du monde entier. Parce qu'elle a tellement de signification pour toutes les religions, toutes les cultures, toutes les civilisations. Elle est loin d'être ça aujourd'hui. Elle est asphyxiée par 300 000 colons et colonies et elle est occupée par une armée d'occupation. Et c'est très triste parce que c'est la ville de ma mère et que pour moi, la Palestine, ça a été avant tout toutes les petites histoires que ma mère me racontait sur son enfance à Jérusalem où elle est née. Et que c'est triste de la voir dans l'état où elle est aujourd'hui. Mais la voix de Fayrouz est un baume sur les blessures.
Votre mère a publié ses mémoires il y a quelque temps et elle raconte effectivement une enfance idyllique à Jérusalem, dans cette maison qu'elle habitait avec ce petit jardin, ses senteurs, ses odeurs, la beauté de ce paysage à l'intérieur duquel elle vivait quotidiennement, la mixité des religions et des ethnies à l'intérieur d'un seul et même territoire. Vous a-t-elle raconté la déchirure de l'exil et la rupture d'avec Jérusalem?
Bien sûr, parce que moi je suis née en 1949. Elle avait déjà été expulsée de son pays. Sa propre maison où elle est née, qui était la maison que son grand-père a construite à Jérusalem, était occupée par des familles israéliennes. Elle ne pouvait pas y aller. Et donc, c'est ça surtout qu'elle avait besoin de raconter, cette déchirure d'avoir été dépossédée de sa maison. Et moi, j'avais peut-être 2 ans, 3 ans. Je suis asthmatique, donc j'avais des longues nuits de crise d'asthme. Et donc, elle essayait de me calmer. Et comme elle avait besoin, je pense, maintenant que je regarde a posteriori, le besoin de garder vivant son souvenir de Jérusalem, elle me racontait donc son enfance. Mais son enfance n'était pas idyllique, elle était très typique de ce qu'était Jérusalem à l'époque. Ça veut dire une ville vraiment cosmopolite, appartenant à tout le monde, inclus la communauté juive de Jérusalem, qu'on appelle le Yishuv, qui était une communauté juive palestinienne, et qui, avant l'arrivée du mouvement sioniste, était une ville où chrétiens, musulmans et juifs, étrangers, beaucoup d'étrangers, parce que comme c'est une ville sainte, nous avions des missions protestantes, des missions catholiques, des missions grecques-orthodoxes avec des Russes, des missions allemandes avec des protestants allemands, des protestants suédois. Selma Lagerlöf, le prix Nobel suédois, est venue justement à Jérusalem. Tous les grands voyageurs, Lamartine, tout le monde est venu à Jérusalem. C'est pour ça que je dis que c'est une ville qui devrait avoir un statut à la hauteur de son histoire. Et que c'est terrible aujourd'hui qu'elle est littéralement, il y a une OPA sur Jérusalem avec un, oublions que Israël est une force d'occupation, mais elle ne peut pas être unidimensionnelle, elle ne peut pas être uniquement juive, c'est impensable. Pas seulement à cause des Palestiniens, mais parce qu'elle appartient à toutes les, à notre histoire, à toutes les civilisations. Et je trouve qu'il y a eu une forme de lâcheté internationale face au fait accompli imposé par Netanyahou, mais qui est malheureusement cautionné totalement par Trump, qui représente quand même une grande puissance internationale. Et je pense que c'est presque un crime contre l'humanité. J'aurais dit la même chose si ça avait été un côté musulman qui avait imposé, ou un côté chrétien qui avait imposé. Je trouve que Il en va de ce qui nous permet de vivre ensemble, de nous respecter dans l'univers entier, dans le monde entier, de restaurer à cette ville cette dimension. C'est pour ça que je dis international, puisqu'on n'arrive pas, en tout cas, à se parler, nous et les Israéliens, parce qu'on n'arrive même pas à arriver à des choses élémentaires, que la communauté internationale assume sa responsabilité et qu'elle la déclare ville internationale. Mais pour ça, il faudrait que la communauté internationale se réveille un peu de sa torpeur.
Votre propre grand-père était déjà un homme politique. La politique chez les chaïds, c'est une affaire de sang.
Oui, c'est un don. Premièrement, mon grand-père qui était dans la politique est un Husseini, du côté de ma mère. Du côté de mon père, c'est surtout un professeur de médecine, des gens qui se sont occupés plus de sciences. Du côté de ma mère, oui, c'est presque, vous savez, comme dans tout l'Empire ottoman, dans les grandes villes, les familles allaient ou bien vers la politique, ou bien vers le commerce, ou bien vers l'érudition. Les Husseini sont une famille qui ont toujours été beaucoup en politique. Et donc, je suis née dans une famille qui a toujours eu un rôle dans la politique en Palestine, souvent très douloureux, puisque nous l'avons perdue, la Palestine. Et donc, j'ai sûrement été beaucoup influencée, bercée par, par la plupart de ces histoires, bien que pour certains, comme mon grand-oncle que j'aime beaucoup, Moussa Al-Alami, déterminé à partir de cette plaie, de cette douleur, de construire aussi l'avenir, puisqu'il a fait un très beau projet de ferme agricole philanthropique pour les enfants des réfugiés. Donc ce n'est pas nécessairement seulement dans la nostalgie et dans la douleur, c'est aussi dans la construction de l'avenir des jeunes générations. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase peut-être la plus tragique de notre existence depuis 1948. Et je mesure mes mots. Et c'est pas seulement à cause de ce terrible gouvernement israélien qui va aller vers des élections dans quelques jours, mais c'est aussi à cause du contexte international qui est effrayant, effrayant réellement.
Avec notamment la déclaration de Trump il y a quelques jours sur le Golan.
Oui, je crois que la déclaration de Trump sur le Golan, elle n'a pas été relevée par la presse de la manière réellement exacte. Parce que au-delà du fait que c'est une violation du droit du peuple syrien et du Golan et de la souveraineté de la Syrie sur le Golan, c'est un défi à la communauté internationale. Voilà un président de la plus grande puissance du monde qui rompt toutes les règles du droit international et déclare que l'occupation d'un territoire par la force militaire devient légitime. C'est la première fois dans l'histoire du droit international qu'un chef d'État d'un pays aussi important se permet de briser le droit. C'est un précédent qui permettra à plein d'autres qui diront « Moi aussi, je veux déclarer que ce que j'ai occupé par la force est légitime. » Poutine peut dire ça sur la Crimée ou n'importe quel occupant, n'importe où, en Afrique ou en Amérique latine. C'est la porte ouverte réellement au chaos total. Et je pense qu'on n'a pas révélé aujourd'hui, on en parle aux Nations Unies, puisque la Syrie a demandé la réunion du Conseil de sécurité. Mais je pense que l'affront, l'insulte, elle n'est pas seulement au peuple syrien ni aux Arabes, elle est au monde entier. Et je suis scandalisée qu'il n'y ait pas plus de prise de conscience sur le fait que M. Trump est une menace pour la paix dans le monde, réellement.
Si je vous dis le mot Palestine, aujourd'hui en 2019, vous qui avez été déléguée pour la Palestine, ambassadrice pour la Palestine, vous qui avez assisté à toutes les propositions de paix dont certaines ont failli aboutir, vous qui avez vécu en plein cœur justement de cette possibilité de la paix pendant plus de 30 ans, quelle signification ce mot revêt aujourd'hui, Palestine ?
Ah, je pense plus que n'importe quel autre moment, parce que justement, il s'éloigne de la réalité sur le terrain. Puisque si on regarde la colonisation qui s'est faite dans les dernières 30 années, depuis les accords d'Oslo, elle s'est multipliée par 4, 5. Nous avons 700 000 colons aujourd'hui qui habitent dans les territoires occupés. Ça veut dire en particulier en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. C'est des gens qui sont là, qui ont leur ville, leur système de route, leur maison, même leur piscine, les camps militaires qui les entourent pour les protéger. Ils ont pratiquement phagocyté le territoire palestinien qui aurait dû devenir un État. Jérusalem-Est a été annexée totalement. Et donc, où vous allez le faire, l'État? Dans ce qui reste de ces petits bouts de Bantoustan qui resteraient, c'est un affront à la lutte d'un peuple d'un courage extraordinaire qui, depuis 70 ans, réclame son droit à l'autodétermination, mais n'a pas refusé le droit aux Israéliens à l'autodétermination. Vous connaissez beaucoup de peuples qui sont encore sous l'occupation et qui reconnaissent à leur ennemi le droit de vivre à côté dans un État que nous avons reconnu. Nous n'avons pas reculé sur la reconnaissance de l'État d'Israël dans les frontières de 67. Israël n'a toujours pas reconnu un État palestinien. Mais pour moi, la Palestine devient quelque chose de symbolique. Peut-être que je deviens, à cause de mon âge, citoyenne du monde. Et la Palestine devient, comme dirait Mahmoud Darwish, une métaphore qui représente toutes les capacités ou incapacités des peuples du monde à se respecter et à vivre ensemble, en se reconnaissant mutuellement. Et qu'elle reprend sa signification qui, pour moi, je pense que je ne me suis jamais battue pour une question de kilomètres carrés, ni pour une frontière définie, où je n'y crois pas. Dans ma génération, cette histoire d'État-nation n'est pas vraiment le rêve de gens qui ont parcouru le monde. Par contre, je crois beaucoup dans le message que porte la Palestine, ce message de volonté de coexistence malgré la guerre, malgré les souffrances, de pouvoir regarder en avant pour les générations de tous les peuples de la région. Et elle est pour moi plus présente que jamais, même si je n'ai plus aucun rôle politique, puisque j'ai pris ma retraite il y a 4 ans maintenant. Je suis très heureuse de me consacrer plutôt à la culture, au cinéma, comme le Panorama qui m'a fait l'honneur de me nommer marraine, surtout pour rendre hommage au sujet de cette 14e session du Panorama, qui est la Tunisie. Il y a un focus sur le cinéma tunisien. Et je suis très admirative de ce peuple qui, parmi tous les peuples qui se sont révoltés pendant les printemps arabes, est celui qui continue à nous donner un peu d'espoir de voir la démocratie et l'égalité entre hommes et femmes se faire dans le monde arabe.
Vous venez de citer le nom d'un grand poète, Mahmoud Darwish, dont vous étiez l'ami. Je vous propose de l'écouter. Il va parler de l'écriture comme rituel secret, puis nous allons entendre la lecture d'un de ses poèmes. C'est une archivina du 1er avril
1998. Même seul, j'ai toujours le réflexe de cacher ce que j'écris. C'est peut-être un reste des habitudes scolaires. Nous ne devions pas montrer nos copies les uns aux autres. Mais la question est de savoir pourquoi j'ai gardé cette habitude. Peut-être est-ce aussi que je considère l'écriture comme un rituel très secret et que je n'aime pas que quiconque voit mes brouillons ou mes premiers balbutiements avant que mon texte ne prenne forme.
قال الكلام كلامه ومضيت لم أحفظ سوى الإيقاع أسمعه وأتبعه وأرفعه يماما في الطريق إلى السماء سماء أغنيتي.
Il avait une manière extraordinaire de lire. C'est pour ça que les gens allaient l'écouter.
Mais comme une rockstar.
Vraiment.
Il y a des moments, pouvez-vous nous dire ce qu'il vient d'exprimer?
Alors, il parle de ce oiseau, de la Yamama. Je ne sais pas comment Elia Sambar traduit Yamama. Il regarde vers le ciel, mais c'est déjà les derniers poèmes qui sont dans la phase où il a vécu 10 ans à Paris, qui sont presque prémonitoires de son départ, parce qu'il est mort jeune, il est mort à 68 ans. Et je pense que cette expérience de la proximité de la mort, parce qu'il se savait malade et qu'il devait tous les jours penser, lui a donné une profondeur dans les derniers recueils qui était absolument magnifique. Mais c'est vrai que rien n'égale le fait de l'écouter. On peut le lire, bien sûr, on peut le lire dans les magnifiques traductions d'Elia Sampar publiées chez Actes Sud. Mais rien n'égale le fait de l'écouter, parce qu'il a une musicalité dans sa manière de lire qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, il était très surpris au dernier concert à Arles. Il avait très peur de ce concert dans les arènes romaines. Et il m'a fait aller la veille pour aller regarder. Il me disait, mais comment tu veux que je remplisse, moi, les arènes avec des poèmes que je lis en arabe? J'ai dit, mais écoute, si Françoise Nyssen t'a invité pour célébrer les 30 ans de Actes Sud, c'est qu'elle savait ce qu'elle faisait. Et donc, il était absolument terrorisé à l'idée de, c'est pas possible que il puisse y avoir vraiment un public qui peut suivre. Et lorsque le lendemain, on est revenu pour la fameuse dernière soirée de lecture, et qu'il a vu que les arènes étaient pleines et que les jeunes étaient assis par terre devant l'estrade où il lisait, il m'a dit, tu as vu le nombre de gens qu'il y a? J'ai dit, tu vois? Et ils savent bien que tu vas lire, bien sûr. Didier Sandre lisait la traduction en français magnifiquement bien, et ça a été le dernier récital où les frères Joubran ont joué, lui a lu en arabe et Didier en français. Et je pense qu'il avait le sentiment que ce serait la dernière soirée de lecture qu'il ferait au monde. Il n'en a pas fait non plus en Palestine, parce que ça, c'était le 14 juillet 2008. Il est décédé en août 2008. Et donc, vraiment, c'était l'adieu qu'il faisait. Et je suis pas malheureuse que ce soit à Arles, à l'invitation de Françoise Nyssen, son éditrice, et en France, qu'il a beaucoup aimé, qu'il a fait son honneur voir à ce public-là. Mais les gens écoutaient avec autant d'attention et de ferveur en arabe qu'en français.
Leila Shahine, malgré vos responsabilités politiques, vous avez été toujours une fervente amoureuse de la culture et pas seulement de la culture arabe, sous toutes ses formes. Vous avez eu la chance de côtoyer un homme dans des circonstances dramatiques, ce qui a tissé une amitié extrêmement solide. Je vous propose d'écouter cet homme. Il s'appelle Jean Genet. Hélas, nous n'avons pas d'archives qui témoignent de l'écriture du captif amoureux ni de son texte sur Sabra et Shatila, mais nous allons l'écouter à propos des hommes qui changent grâce à la lecture. C'est un extrait de l'entretien avec Bertrand Poirot Delpech. C'était le 25 janvier 1982.
Je ne pense pas qu'un homme puisse être transformé par ce que j'ai écrit. Il peut détester ce que j'ai écrit ou adhérer à ce que j'ai écrit. D'ailleurs, un tortionnaire n'est pas complètement un tortionnaire. Chaque homme fait de tout sa peinture. Et il n'est pas transformé par la lecture d'un livre, la vue d'un tableau ou par une musique. Il transforme au fur et à mesure tout ça et il en fait quelque chose qui lui convient.
Nous venons d'entendre la voix de Jean Genet. Pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous l'avez hébergé et ce que vous avez vécu ensemble, qui maintenant est un témoignage historique d'une des pages les plus douloureuses de l'histoire du peuple palestinien.
Oui, c'est-à-dire que ma relation avec Jean, qui est une relation vraiment d'amitié, de partage, de complicité, je dirais, à plus d'un niveau avant tout très personnel, très amical, pas du tout par le biais ni de son théâtre, ni de ses récits et romans, elle a commencé à Paris lorsque j'étais étudiante. Et je pense que, comme tout ce qu'il fait, il avait décidé qu'il avait besoin de quelqu'un qui serait un peu la personne qui garderait vive dans sa mémoire les souvenirs qu'il avait vécus en Jordanie en 70, puisque notre représentant à l'époque, qui malheureusement a été assassiné à Paris, Mahmoud El-Hamchari, lui avait demandé d'aller en Jordanie pour témoigner des accrochages qui avaient lieu entre l'armée jordanienne et les combattants de l'OLP en 70, et qui a donné lieu à des massacres terribles de civils, jusqu'à 30 000 personnes. Et Genet donc a été, et puis il a eu un tel élan vers ces combattants qu'il a compris, qu'il a aimé. Au lieu de rester les 10 jours qu'il devait passer à Amman, il restait 6 mois. Il restait 6 mois et il a demandé à avoir la permission d'aller là où il voulait, en particulier avec les combattants dans les bases des Fedaïnes, dans la vallée du Jourdain. Je pense qu'il y avait quelque chose qui était d'un attrait presque mystique pour lui, d'être au bord d'un Jourdain qui, au-delà, était la Terre Sainte, qui voulait, même pour quelqu'un de totalement athée comme lui, le ramener quand même beaucoup dans ses propres souvenirs d'enfance. Et donc, il avait besoin de parler de tout ça. Il avait déjà un cancer à la gorge, on l'entend à sa voix. Il l'a eu très tôt, il l'a gardé jusqu'à son décès. Et donc, il avait décidé. J'étais présidente de l'Union des étudiants palestiniens à Paris. Et il avait besoin de cette conversation perpétuelle. Puis, je me suis mariée à un écrivain marocain. J'ai été m'installer au Maroc. Et lui avait un ami marocain, Mohamed El-Khatrani, chez qui il allait régulièrement. Donc, après la France, le Maroc nous a réunis. Et lui habitait plus à l'Arache, où habitait Khatrani, et moi j'habitais à Rabat. Mais on se voyait régulièrement. Puis arrive 82 et l'invasion israélienne du Liban, qui dure 3 mois, 3 longs mois de siège, de bombardement, de coupure d'électricité, de coupure d'eau. Et nous vivions minute par minute ce qui se passait. On ne pouvait pas y aller parce que l'aéroport avait été fermé. Et donc, lorsque 3 mois après l'aéroport ouvre, on n'a pas vraiment été à l'aéroport de Beyrouth, on va à l'aéroport de Damas et de Damas, on rentre au Liban, pensant vraiment que la guerre était terminée, puisqu'il y avait eu un accord entre la France, le Liban, l'OLP et indirectement Israël et les Américains, accord signé par Philippe Habib, le ministre des Affaires étrangères américain de l'époque, que les Palestiniens pouvaient partir, grâce aussi à l'aide du président Mitran qui a envoyé sa marine évacuer le président Arafat et ses combattants de Beyrouth. Et l'OLP avait demandé que les camps de réfugiés soient sous la protection d'une force multinationale américaine, française et italienne. Et nous arrivons à Beyrouth où ma mère vivait, où je suis née, qui est la ville à laquelle je me sens appartenir le plus aujourd'hui. Et nous voyons, en arrivant à l'appartement qui est au 8e étage d'un immeuble devant la mer, nous voyons partir les vedettes américaines, italiennes et françaises. Et tout de suite, nous pensions qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on savait qu'elles devaient rester encore au moins un mois. Et en fait, l'armée israélienne profite de l'assassinat du président Béchir Gemayel, qui est assassiné 2 jours plus tard après notre arrivée, pour soi-disant dire que c'est les Palestiniens qui l'ont assassiné, encercler les camps de réfugiés et organiser des massacres de civils, de plusieurs milliers de civils dans ces camps, lesquels civils étaient normalement sous la protection d'une force multinationale. Ce qui était extraordinaire, c'est que c'est pas moi qui ai invité Jean à venir avec moi. Jean était malade, il était vieux. C'est lui qui a tout fait pour m'accompagner, comme si, quelque part, il avait cette intuition de là, il fallait qu'il soit au moment où il choisissait d'être. C'est quelqu'un qui a une volonté, qui a presque une prémonition de son destin. C'est un homme qui fabrique son destin. Et il aurait très bien pu penser que c'était pas sa place. Il ne pouvait pas imaginer, personne n'imaginait qu'il y aurait encore une invasion de Beyrouth-Ouest et des massacres contre les Palestiniens qui n'étaient absolument pas responsables de l'assassinat de Béchir Gemayel, puisqu'on sait maintenant que c'est plutôt les Syriens qui l'ont fait assassiner. Et je pense effectivement, comme vous dites, que cette histoire nous a... Comme les responsables de l'OLP étaient déjà partis, on est venu me prévenir très tôt, une infirmière norvégienne qui travaillait dans les camps, qui avait été évacuée, elle et ses camarades infirmiers et médecins, est venue me prévenir à minuit dans mon appartement qu'il y avait un massacre, qu'il fallait que je prévienne le président Arafat. Donc le lendemain, on a été, n'imaginant pas l'horreur de ce que c'était, sinon... Je n'aurais pas accepté qu'il vienne avec moi parce qu'il était, comme je dis, vieux et malade. Et c'est vraiment les 4 heures que nous avons passées qu'il raconte dans ce texte terrible et en même temps magnifique au niveau de l'écriture. Et c'est le premier texte où il reprend la plume depuis les paravents, depuis donc les années 60. Et ce qu'il a vécu, qui était comme une prémonition, comme je dis, comme s'il savait qu'au bout, il y aurait un retour à l'écriture, c'est un peu le préambule d'un captif amoureux qu'il continue après. Et j'ai eu le privilège de vivre cette amitié qui a duré de 75 à son décès en 86, mais avec beaucoup d'humour, beaucoup de complicité, parce que c'est quelqu'un qui avait énormément d'humour, et un regard sur la vie que je n'ai trouvé nulle part ailleurs, et je le garde très, très profondément. Lorsque je désespère, je me rappelle son humour et son regard moqueur, et je me dis que, quelque part, il avait décidé que sa relation avec les Palestiniens était assez importante pour lui permettre pratiquement de boucler sa vie avec ce retour vers cet Orient qu'il a beaucoup aimé lorsqu'il était jeune soldat et qu'il a rejoint l'armée française pour sortir de prison et il a été à Damas. Et c'est comme s'il savait qu'en revenant dans cette phase de 82, qu'il terminait un peu sa vie là où il avait commencé, là où il s'est toujours senti heureux, dans la tendresse, la douceur de cette culture arabe qu'il a beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup aimé. Comme il a aimé beaucoup la culture grecque.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Leila Chaïd, Ibrahim Malouf, Beyrouth.
Vous êtes venu ce soir, Leila Chaïd, avec un cadeau que je porte autour du cou. Ce cadeau, c'est une petite pochette brodée dans les tons rouges, violets et roses, sur fond marron. C'est une broderie qui a dû être faite par des femmes.
Oui, des femmes palestiniennes dans les camps de réfugiés au Liban, d'une association à laquelle ma mère a participé, qui s'appelle Enach al-Mukhayyam, parce qu'elle s'est beaucoup occupée de broderie, et que Jean, dans un captif amoureux, parle du geste de ma mère qui brode pendant qu'on est assis au salon, parce qu'on a beaucoup vécu ensemble à Rabat, et que ma mère venait me voir pendant plusieurs jours, et qu'il la voyait toujours assise dans le salon, avec toujours un petit canevas où elle brodait. Il était fasciné de ce geste de broderie. Et elle disait toujours que si elle a survécu à la guerre civile au Liban, où elle se retrouvait seule avec trois de ses filles à l'extérieur, c'est parce que la broderie était une thérapie. Et lorsque j'ai lu le manuscrit d'un captif amoureux au bout, et que Jean m'avait dit pendant toute la période où il corrigeait les épreuves, qu'il tenait à tout prix à mettre en page lui-même le texte qui allait être imprimé, et Laurent Boyer, son cher ami de Gallimard, aujourd'hui malheureusement décédé, lui a porté tous les jours les épreuves et les ramenait. Il mettait en page, ça veut dire qu'il décidait où il y avait du blanc entre les paragraphes, parce qu'il n'y a pas de chapitre, parce que ce n'est pas seulement un récit, ce n'est pas un poème, ce n'est pas un reportage, ce n'est pas une biographie, et c'est en même temps tout ça. Donc il tenait beaucoup à placer le texte. Pendant longtemps, les critiques étaient perdues, ne savaient pas comment appeler ce livre. Et un jour, j'ai eu comme ça une idée, je pense qu'elle est juste, intuitivement je le pense, je ne suis ni critique de littérature, ni experte dans la matière, mais je sens réellement qu'il a trouvé dans cette idée de la broderie la forme de son texte, qui est comme une broderie de sa vie. Il a brodé sa vie dans ce texte, parce qu'il ne parle pas seulement des Palestiniens, il parle avant tout et surtout de l'écriture. Lui qui a passé sa vie à dire que l'écriture ne le concernait pas beaucoup, qu'il a écrit parce qu'il était obligé de le faire pour sortir de prison, il fait une confession magnifique sur combien l'écriture a été sa raison de vivre. Et c'est pour ça qu'il y revient après 25 ans, 27 ans de silence. Et je pense qu'il a trouvé cette forme qui est une forme unique. Il n'y a pas d'autre livre qui ressemble à celui-là. Il l'a pris dans la broderie. Je suis contente que vous aimiez cette broderie, parce que je trouve que c'est un geste aussi, rappelez-vous, toute la tradition grecque du fil d'Ariane, de Pénélope, de tout ce qui aussi a beaucoup nourri Genet dans la tradition hellénistique et qui lui a permis, c'est pour ça que c'est quelqu'un de tellement brillant sur le plan du travail d'écriture qui se dépasse à 76 ans lorsqu'il est malade, qu'il a une douleur terrible parce que le cancer remonte de la gorge. Et avec ça, il invente une nouvelle forme. Et je pense que c'est sa victoire contre la mort réellement. Et il nous laisse le plus beau des cadeaux, qui est un captif amoureux.
Dans cette émission, on demande à quelqu'un qui connaît bien l'invité de s'exprimer à son sujet. On a choisi un Israélien.
Très bien.
On a choisi un ambassadeur, un ex-ambassadeur israélien.
Je devine.
Un historien, auteur
Eli
de
nombreuses.
Voilà. Avec qui vous avez beaucoup, oui. Je sais pas quel mot utiliser, coopérer,
parler,
oui. discuter,
on s'est discuté, on a beaucoup rigolé. On a été souvent d'accord, souvent en désaccord.
Oui. Bah, c'était un temps, oui. Où les Israéliens, oui. Et les Palestiniens
se parlaient au moins, oui.
Se parlaient. Alors, écoutez ce qu'il dit de vous aujourd'hui.
Oui. En fait, on n'a jamais été d'accord sur les détails. Nous avons fini par constituer, Leila et moi, un couple médiatique assez improbable. Et nous sommes souvent retrouvés sur des plateaux de télévision, dans des studios de radio, dans des conférences publiques. Et évidemment, de par nos fonctions, nous étions antagonistes. Hein. On s'est toujours attrapés. Et en même temps, il aimait une amitié. Parce que fondamentalement, si vous voulez, au-delà de la polémique, fondamentalement, nous sentions bien. Et nous le disions aussi à l'occasion que nous étions fondamentalement d'accord sur le but ultime, la recherche et l'obtention d'une paix fondée sur la création de l'État palestinien souverain aux côtés de l'État d'Israël, nous étions d'accord. Et donc j'ai toujours estimé les là, derrière la haute polémique flamboyante, parfois excessive à mes yeux, et il y avait une modération fondamentale. Nous sommes restés, elle, davantage que moi, sans doute, des personnages publics. Mais je suppose que nous sommes aussi malheureux l'un que l'autre, aussi désespérés face à la tournure qu'a prise la région, l'échec des révolutions arabes, la montée du nationalisme, l'effacement de toute possibilité d'entente, et la faiblesse palestinienne, la faiblesse d'Abomaz et de sa société palestinienne, la division des Palestiniens. Et tout cela crée un tableau sombre, hein, et je suppose que nous sommes aussi tristes et malheureux l'un que l'autre face à ce développement. Voilà comment elle vit cela, elle vous le dira sans doute elle-même, mais je suppose qu'elle vit aussi mal que moi.
Oui, sûrement. Et c'est effrayant de voir comment, en l'espace de 20 ans, on peut régresser et détruire réellement des espoirs qui étaient réels. Il y a toujours eu, bien sûr, dans les accords d'Oslo, des manques, mais il y avait fondamentalement une reconnaissance que la solution était réellement la création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël, ce qu'on appelle la solution des deux États. Et il y a une réalité, en 20 ans, cette possibilité, après l'assassinat de Rabin, elle a été pratiquement démolie par le Likoud, par ceux qui ont fait tuer, parce que moi je suis persuadée que Rabin n'a pas été seulement tué par ce jeune homme qui est la main qui
un
a...
Un intégriste juif.
Oui, Yigal Amir qui a tiré sur la gâchette, mais lui était envoyé par des gens qui savaient qu'en tuant Rabin, on allait arrêter tout ce processus, qui était un processus graduel, vraiment, de négociation, d'apprentissage des relations bilatérales.
Mais il y a eu un film d'Amos Gitai qui restituait avec beaucoup de précision et de rigueur,
un des meilleurs films d'Amos Gitai,
les conditions de l'assassinat d'Isaac Rabin.
Et je pense que les Israéliens n'ont
pas
assez regardé.
Mais il reste peut-être les mêmes questions sur la mort, les raisons de la mort d'Arafat encore aujourd'hui.
Aussi, sauf qu'Arafat est mort plus tard. Mais je dirais que, réellement, il y a, bien sûr, il y a aujourd'hui une situation intérieure palestinienne tragique, mais c'est pas la division entre le Hamas et le Fatah qui a empêché la mise en œuvre de ce qu'on a discuté. C'est l'absence totale de volonté de ceux qui ont pris la relève après Rabin. J'inclus dedans, malheureusement aussi, la faiblesse de Shimon Peres, et puis Ehud Barak qui a été, c'est là notre désaccord, moi et Eli Barnavi, c'est sûr, parce que lui a été ambassadeur au moment d'Ehud Barak et de Sharon. Je pense que tout ce qui est venu après Rabin n'était pas réellement assez attaché. Rabin a été assassiné parce qu'il était vraiment attaché à essayer de faire cette paix. Et je dirais que l'autre raison, c'est l'incapacité de la communauté internationale, américain, européen, confondu, parce qu'il y avait quand même Bill Clinton, tout ce n'était pas comme Trump, il y avait Obama. Mais ils n'ont pas compris qu'ils ne pouvaient pas laisser en tête-à-tête Israéliens et Palestiniens, parce qu'il y avait un déséquilibre total de force, et qu'il fallait faire un minimum d'équilibre. Il fallait que cette communauté s'intéresse réellement à cette question, parce qu'elle envenime toutes les autres dans toute la Méditerranée. Et la communauté internationale n'était pas au rendez-vous. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation, nous parlons aujourd'hui, nous sommes le mercredi 27, peut-être que demain, après-demain, il y aura encore une guerre contre la bande de Gaza, avec encore des civils qui vont mourir, parce qu'il y a eu quelques tirs à partir de Gaza. C'est insupportable, et ceci envenime le sentiment de colère, de rage, dans le monde entier. Et je trouve que c'est pour ça que je rigole en disant, je devine que c'est Eli, parce que c'est vrai que nous avons été amis avant qu'il soit ambassadeur. Nous restons après qu'il ait été ambassadeur. Mais c'est vrai que je n'ai pas toujours apprécié les positions du gouvernement qu'il représentait. Il le savait très bien, parce que on était assez francs pour se dire les choses. Je pense qu'il a été un très bon ambassadeur, d'ailleurs. Et je regrette...
Vous pensez que vous avez été une bonne ambassadrice?
Ah non, ce serait très prétentieux de le dire. C'est pas à moi de le dire. Mais ce qui me fait de la peine, c'est que j'ai le sentiment que nous recommençons à zéro. Je ne peux pas ne pas penser aux habitants de Gaza. Il y a 2 millions de personnes cette nuit qui attendent les drones, qui se demandent s'ils peuvent dormir, s'ils vont lendemain se réveiller morts ou vivants avec leurs enfants, parce qu'il n'y a rien qui protège. Israël est protégé par un dôme de missiles qui la protège. Elle est protégée par M. Trump et l'aviation américaine. Mais qui protège les habitants de Gaza? Personne, même pas l'autorité palestinienne. Et je trouve que c'est... Nous sommes à la quatrième guerre, peut-être. Il y en a eu déjà trois, en 2008, en 2009 et en 2014. Et tout le monde parle de la misère de Gaza, de la possibilité que ça explose, et personne ne fait rien. Et je pense que avec l'irresponsabilité, la criminalité de la politique de Trump, qui aujourd'hui arrête le financement des familles les plus pauvres à travers les Nations Unies, vous savez que l'UNRWA, l'Office des Nations Unies, nourrit 5 millions de réfugiés, dont 80% de la population de Gaza, mais les réfugiés aussi au Liban, en Syrie, en Cisjordanie. Il a coupé les vivres, 350 millions, qui est un tiers du budget de l'UNRWA. M. Trump a décidé qu'il n'y a pas de raison qu'il les paye. C'est une décision des Nations Unies. Il a déclaré Jérusalem capitale. Aujourd'hui, il envoie M. Kouchner, son gendre, soi-disant, proposer des solutions financières, comme si le problème était d'ordre financier.
Pas Kouchner?
Si. Kouchner, il s'appelle Kouchner, il s'appelle Yared Kouchner, mais oui. Pas notre Kouchner
voilà,
français.
C'est pas
c'est
Bernard,
le Kouchner, c'est l'autre. C'est l'autre. Et donc, je suis vraiment très inquiète et j'ai le cœur meurtri. Et je trouve que nous n'avons pas assez fait réellement pour trouver une solution. Mais malheureusement, la paix était déjà terminée avant la division entre le Hamas et le Fatah. Et je suis très critique à l'égard de l'autorité palestinienne. J'ai décidé de prendre ma retraite parce que je n'avais plus envie d'assumer ces positions-là.
Manifestement, vous n'avez pas raccroché, hein, Leïla.
Non, si, bien sûr. Mais je n'ai pas cessé de réfléchir.
Personne ne vous interdit de penser,
oui,
de transmettre.
Bien sûr. J'ai arrêté mon activité diplomatique. Je ne crois plus. Je suis aussi sévère sur les Européens. J'ai été ambassadeur auprès de l'Union Européenne pendant 10 ans. Je suis très sévère à l'égard de l'autorité palestinienne, mais aussi sévère à l'égard de la diplomatie européenne qui vote les résolutions, mais qui ne les jamais met en pratique. Il les met en pratique jamais. Elle fait une politique un peu de l'autruche. Mais je crois qu'aujourd'hui, mon devoir est de soutenir tout ce qui est dans cette société civile palestinienne est d'une vitalité extraordinaire. Ça veut dire la culture, l'art, le cinéma, la peinture, la photo, l'éducation. Et surtout, ne croyez pas que la population palestinienne se sent vaincue. Elle ne se sent pas vaincue. Elle est très pessimiste sur l'avenir, elle est très sévère à l'égard de sa propre direction, mais aussi de la direction de la communauté internationale et du monde arabe qui, aujourd'hui, est dans une phase hystérique de guerre contre l'Iran, au lieu de s'occuper de leur propre démocratie intérieure. Et je pense que mon devoir est de soutenir cette société civile. C'est la seule chose à laquelle je crois aujourd'hui et à laquelle je me consacre. Et si je peux contribuer 1% à cette société civile, j'en serais très heureuse avant de quitter ce monde, parce que je ne suis plus très jeune.
En tout cas, vous êtes la marraine et une merveilleuse ambassadrice de la 14e édition des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Je vous propose d'écouter un court extrait d'un film consacré à une femme exceptionnelle, oui, mais que nous connaissons
Béatrice.
Très peu, qui s'appelle Béatrice.
Oui, oui. Écoutons, adoré ce film. Oui.
Écoutons donc un extrait de Béatrice un siècle de Héger Scharf,
oui,
qui
mon
sera
ami,
présenté
c'est un très beau film, magnifique film.
Dans ce festival.
Je suis née le 2 juin 1923 à Tunis. Mes parents se sont mariés en 1922. Mon père était de Gabès. Son père était un grand commerçant à Gabès. Et ma mère était une juive livournaise. Et ma mère était fille d'une famille livournaise qui était là depuis le 19e siècle, en Tunisie. Quand j'étais fillette, je me souviens de ce croissant quotidien pour lequel on me donnait tous les jours 50 centimes, que je n'achetais jamais. Et à la fin de la semaine, j'avais assez d'argent pour m'acheter un livre de la collection Nelson. Enfant, adolescente, lire était ma principale occupation. C'est par des livres que j'ai commencé à lire en classe de philo, que j'adhérais intellectuellement, affectivement, je dirais même avec ce que j'appellerais la foi au communisme.
Alors, pouvez-vous évoquer la figure de cette femme magnifique ?
J'ai adoré ce film que mon amie Hajar Scharf, qui est une cinéaste tunisienne canadienne aujourd'hui vivant à Montréal, a fait. D'ailleurs, je l'ai proposé au Panorama du cinéma parce que je le trouvais tellement beau dans ce focus sur la Tunisie. Et Béatrice est une femme qui a été à la direction de mai 68 parce que elle a quitté la Tunisie. Elle est juive tunisienne, communiste, comme elle dit. Elle est partie à un moment donné parce que les gens partaient. Et elle est venue donc à Nanterre enseigner et elle a fait partie de la direction du mouvement de mai 68 qui a beaucoup commencé à Nanterre. Et ce film est absolument magnifique parce qu'il raconte vraiment un siècle. Ça commence avec la décolonisation en Tunisie, le mouvement progressiste, le féminisme, parce que c'est une grande féminisme, et ça se termine avec la révolution de mai 68, et le destin a voulu qu'elle meure juste au moment où son film s'est terminé. Et je pense que c'est très important que les gens aillent le voir, parce qu'il est dans le cadre de ce focus sur la Tunisie, c'est un très beau film. Je pense réellement que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le cinéma a une manière de parler de nos réalités, pas seulement dans le monde arabe, mais en particulier dans ce festival, c'est surtout le Mashrek et le Maghreb qui est représenté, d'une manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus convaincante, beaucoup plus intelligente, au-delà des stéréotypes de tout ce monde arabe, parce que le langage cinématographique est beaucoup plus, va beaucoup plus profondément dans la complexité des situations que le discours politique ou même journalistique.
Dernière donc, question, Leila Chahid.
Il faut aller voir les dizaines de films magnifiques et moi je serai dans beaucoup d'entre eux aussi pour animer les débats.
Oui, en excellente marraine. Mais dernière question, si je vous dis le mot espoir, vous me répondez quoi?
Je vous répondrai, Darwish que vous aimez, je sais que vous aimez sa poésie, a dit « Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir ».
Merci infiniment Leila Chahid. On va se quitter en écoutant une jeune femme que vous connaissez qui s'appelle Émilie Loiseau et qui va chanter « Viens avec moi, vieux pays » avec The Blind Seeds.
Avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit, la vie?
Merci à Michel Bézikian qui était à la technique ce soir, à Jean-Baptiste Audibert, à Élodie Royenne, Sophie Dazard, Antoine Joubert et à Benjamin Riquet qui a réalisé cette émission.